Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Corentin Mansois, mais aussi Maïder Gérard et Mélanie Chalandon, réalisée par Benjamin Hu et mise en ondes ce matin par Youtou Aklopez. Deuxième temps de notre série consacrée à la planète, cette planète en danger et aux pistes possibles pour la sauver. Hier, nous nous demandions si l'Union européenne était l'avenir de l'écologie politique. Aujourd'hui, place à la finance. Les financiers au secours de la planète, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Si on augmente la taxe carbone, on verra nos investissements et les choix de tous les acteurs se déporter des énergies fossiles pour se tourner vers des alternatives plus respectueuses de l'environnement. En Suède, elle existe depuis 1991. Et depuis cette date, nous avons eu une hausse de 60% du PIB et en même temps, nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 25%.
On peut aussi être punitif. Et être punitif, c'est ce qu'on annonce les uns après les autres, c'est qu'à un moment donné, on n'investira plus sur des entreprises qui sont trop carbonées. Donc on n'investit plus et on n'assure plus. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui, également maximum 2040.
Je veux juste dire que durant ces dernières années, nous avons progressé dans la manière de construire des accords dans le domaine des énergies renouvelables. Comment trouver des manières de rendre attractifs économiquement les investissements dans ces énergies. Ça nous a permis d'assurer des bénéfices sur le long terme à nos bénéficiaires, mais aussi de répondre à nos besoins en tant qu'investisseur exonéré d'impôts.
Nous entendions dans l'ordre Magdalena Andersson, ministre suédoise de la Finance, évoquant la taxe carbone, mais aussi Jacques Richier, président directeur général d'Alliance France, lors du Forum Smart City en novembre 2018, qui annonçait l'arrêt des investissements dans les industries carbonées. Puis on entendait également Beth Richtman, directrice des investissements dans un fonds de pension californien, qui expliquait avoir considérablement accru les investissements dans les énergies renouvelables. Cela fait de nombreuses années maintenant que l'on a compris que pour espérer limiter le dérèglement climatique, il fallait investir dans la transition écologique et diriger les investissements vers une économie moins gourmande en carbone. Mais peut-on compter sur le seul risque climatique pour réorienter les investissements? Jusqu'où faut-il contraindre les acteurs économiques et financiers, les banques, les fonds de pension et autres assureurs? Et comment s'y prendre? Quels sont les outils disponibles? Quelles sont leur efficacité aussi? Comment libérer l'investissement vert? La finance peut-elle sauver le climat? C'est la question qu'on va se poser ce matin avec deux invités. D'abord, Claude Henry, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Professeur de développement durable à Sciences Po, ancien professeur à l'Université Columbia, et puis président du conseil scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. À vos côtés, Mireille Martini, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes chercheuse dans l'équipe finance vert de l'OCDE, mais aujourd'hui, vous parlez à titre personnel.
Absolument.
C'était...
Voilà, je ne suis à l'OCDE que depuis quelques mois, je ne suis pas habilitée à parler au nom de l'OCDE et de toute façon je suis loin de connaître toutes les positions de cette vaste maison, donc aujourd'hui je m'exprime à titre strictement personnel.
Eh bien voilà, c'est dit. Je vais commencer avec vous, tiens justement Mireille Martini, si vous le permettez. Il y a un préalable peut-être avec lequel il faut commencer, c'est que d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, il semble assez clair qu'il faut agir, car ne pas enclencher précisément cette transition aurait un coût bien plus important que celui qu'il va falloir assumer pour opérer cette transition. Mais est-ce qu'on a justement une idée de ce que pourrait nous coûter en plus ce processus si l'on ne fait rien? C'est-à-dire, quel serait le surcoût du scénario sans changement par rapport au scénario bas carbone? On a une idée de ça ou pas du tout?
Oui, on a une idée de ça. Beaucoup d'économistes travaillent là-dessus depuis plusieurs années. Je citerai Nick Stern et la nouvelle économie climatique. Donc, la manière dont les économistes ont fonctionné, c'est qu'ils sont partis d'un scénario d'investissement dans les 15 premières années, dans ce qu'on appelle le business as usual. Et ils ont démontré que le financement d'une économie bas carbone par rapport à ce scénario business as usual ne coûterait que entre 5 et 10% de plus. Peut-être autour de 5. Donc en réalité très peu, surtout que ce calcul ne prend pas en compte les dommages du changement climatique.
Bien sûr.
Et en fait, sur le fond, c'est assez simple de comprendre. Il s'agit d'arrêter de financer des investissements dans l'économie fossile et de remplacer ces investissements-là par des investissements dans du décarboné. Donc c'est une substitution.
Claude Henry, on comprend qu'on n'a pas le choix. Mais si on regarde le contexte économique et financier dans lequel on se trouve, est-ce que précisément il est favorable à cette transition ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans un contexte un peu délicat et pas forcément le meilleur pour amorcer la transition ?
Je ne pense pas que ce soit le contexte le meilleur. Et puisqu'on est sur France Culture, je vais me permettre une citation. Elle est un peu inattendue. Elle est de Karl Marx. Elle n'est pas dans le Capital, elle n'est pas dans le Manifeste communiste, elle est dans la critique de l'économie politique. Et il écrit ceci. « Les sociétés humaines en général n'entreprennent que ce qu'elles croient pouvoir accomplir. Les sociétés humaines à l'heure actuelle ne semblent pas croire pouvoir accomplir une véritable transition, à quelques exceptions comme le Costa Rica ou la Suède. » Donc, la situation est difficile et il est important de rechercher quels sont les acteurs, notamment financiers, mais il y en a d'autres, les jeunes qui font la grève de l'école ou Extinction Rebellion, sont ces acteurs qui peut-être nous sortiront de cette incapacité institutionnel et habituel à entreprendre quelque chose d'aussi énorme que la transition.
Ça sera un sujet de demain, justement, cette question des sociétés civiles, savoir ce qu'elles peuvent et ce qu'elles ne peuvent pas aussi, peut-être. Mireille Martini, vous disiez tout à l'heure « business as usual », et d'ailleurs, c'est exactement ce que vous disiez dans l'introduction de votre livre « Financer la transition énergétique ». C'était en 2016, et vous disiez à l'époque, en fait, on n'a pas pris véritablement le défi comme il faudrait le faire, et on est, au fond, dans une forme de scénario comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire business as usual. On est quasiment 3 ans après. Est-ce que vous diriez qu'on est toujours dans cette logique du business as usual ou est-ce que vous diriez que, s'agissant de cette finance verte, les choses ont quand même un peu changé en 3 ans ?
Alors, je dirais clairement que les choses ont changé et qu'il y a des évolutions positives qui sont absolument non négligeables.
Vous pensez à quoi ?
Sur plusieurs fronts. D'abord, il y a un mouvement continue, qui ne s'est pas arrêté et qui s'est renforcé sur le prix du carbone. Il y a une croissance du volume des émissions qui ont un prix dans le monde. Cette croissance est trop lente et le prix est trop faible. Mais le mouvement ne s'est pas arrêté. Et ça, c'est important. Et comme le disait Claude, il y a un certain nombre de pays qui ont des politiques de plus en plus ambitieuses. Bon. Donc, il y a ce mouvement-là, et il y a aussi un mouvement qui ne s'est pas arrêté non plus, que vous citiez tout à l'heure, qui est le mouvement d'un certain nombre de financiers et de grands fonds de pension qui disent on prend conscience du risque climatique, ou alors on est sensible à l'opinion ou aux attentes d'investissement d'épargne des investisseurs, et donc on va s'engager dans un mouvement de décarbonation. Je dirais que ces mouvements-là ne sont pas négligeables et que 3 ans après, l'analyse, c'est qu'ils restent cependant trop modestes et trop lents pour faire un changement massif et avec la rapidité qui est nécessaire.
Claude-Henri, peut-être même une question sur une forme de bilan de où on en est sur cette finance verte. Et puis moi, je vais donner peut-être le mauvais côté des choses parce qu'il y a quelque chose sur lequel on semble pas beaucoup avoir évolué. C'est celui des subventions aux énergies fossiles. Il y avait un chiffre absolument terrifiant du FMI en 2015 qui nous expliquait que les États avaient dépensé, tenez-vous bien, 4700 milliards, vous connaissez évidemment ce chiffre, 4700 milliards de dollars, c'est-à-dire 6,3% du PIB mondial, pour subventionner précisément l'utilisation de combustibles fossiles. Or, on sait évidemment que ça sera décisif de sortir cette subvention pour espérer décarboner notre industrie. Alors, est-ce que, de ce point de vue-là, on a fait des progrès ou est-ce qu'on est toujours sur la mauvaise pente ?
Alors, je pense que le chiffre du FMI, qui est tout à fait solide, ne représente pas pour l'essentiel des subventions directes. Pour l'essentiel, ce sont des coûts qui ne sont pas prélevés sur ceux qui, avec les énergies fossiles, créent tous les dommages que nous connaissons. Donc ce chiffre est en partie plus petite des subventions directes, encore beaucoup trop importantes, comme vous le disiez, mais la plus grande partie, c'est le fait que on laisse courir sans faire payer les dommages qui sont créés. Pour ce qui est du mouvement de divestissement des énergies fossiles et investissement dans les énergies renouvelables et aussi l'économie d'énergie, on a fait, comme vous le disiez, de très grands progrès. Il se fait que je connais assez bien le président du Rockefeller Brothers Fund, qui a été un des deux ou trois pionniers de ce mouvement, et qui disait au départ, pourquoi faisons-nous cela ? À la fois pour des impératifs moraux et pour des raisons de bonne économie. Nous ne voulons plus investir les fonds que nous avons et qui sont nécessaires pour les actions philanthropiques que nous devons financer. Nous ne voulons plus les investir dans des énergies fossiles parce que c'est mauvais pour la planète et parce que nous considérons que c'est financièrement dangereux, car un jour le retournement aura lieu. Et ils ont été considérés, tout Rockefeller qui soit, comme de doux rêveurs à l'époque. À l'heure actuelle, de quelques milliards de dollars engagés dans cette reconversion, on est passé à 8 000 milliards de dollars. Mmh, mmh. Ce n'est pas négligeable.
Mireille Martini, l'une des grandes difficultés pour développer justement cette économie bas carbone, c'est de trouver des financements pour le faire. Or aujourd'hui, il se trouve que quand des entrepreneurs vont voir des banquiers pour financer leur projet, ils sont pas toujours enclins à leur prêter de l'argent. Et ça, c'est un vrai problème. Probablement d'ailleurs parce qu'ils considèrent que leur projet n'est pas suffisamment rentable et qu'il y a des choses beaucoup plus rentables comme, je sais pas moi, l'immobilier ou que sais-je encore. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour retourner la situation et faire en sorte que les banques aujourd'hui soient davantage prêteuses sur des projets bas carbone?
Alors, si vous me le permettez, je voudrais prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette question et aussi suivre la réflexion qu'on avait sur le mouvement de désinvestissement.
Parce
que cette question est très importante, mais je pense qu'il faut la resituer dans son contexte. Il y a deux niveaux de réponse. Le premier réponse, alors bon, une entreprise ne va pas forcément voir son banquier, c'est une nuance importante. Aujourd'hui, une entreprise va voir les marchés financiers, surtout les grandes entreprises, c'est pas tout à fait la même chose. On peut aussi aller voir des actionnaires, mais bon, peu importe. Parlons des financements globalement. Mmh. Et des financements qui s'orientent vers les entreprises et l'économie réelle. Le premier élément de réponse très simple, c'est que dans la plupart des cas, les projets ne sont pas profitables. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les projets ne sont pas profitables parce que les projets de la transition permettent d'économiser des externalités qui ne sont pas pricées, pour parler bien français.
L'économie ne rapporte pas d'une certaine manière. L'économie d'énergie, d'une certaine manière, ne rapporte pas.
Voilà, l'économie d'énergie, le fait d'économiser du carbone, le fait de protéger votre sol, ça vous coûte, mais ça ne vous rapporte rien. Bon. Donc, on a tout ce problème des signaux pris dans l'économie, les prix relatifs ne rendent pas les projets de la transition suffisamment profitables. Et ça, c'est l'idée du prix du carbone, et je dirais du prix du carbone et de toutes les externalités. Mais ça ne suffit pas. L'autre dimension du problème, qui est moins connue, qui est plus difficile à percevoir et qui, à mon sens, est tout aussi importante, sinon plus, c'est qu'il est faux de croire que dans l'économie actuelle ne s'oriente pas, la finance actuelle, pardonnez-moi, ne s'oriente pas vers l'économie réelle. En ordre de grandeur, dans la finance aujourd'hui, les fonds de pension, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance, aussi tous les fonds d'investissement divers et variés, je dirais qu'en ordre de grandeur, il y a probablement 1 sur 10 qui est dans l'économie réelle. Le reste, c'est le résultat de l'énorme croissance du secteur financier et de sa déréglementation, qui a été pratiqué depuis les années 80, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'a que quelques décennies. Et en réalité, l'essentiel de la finance aujourd'hui, c'est des paris. Et sans être trop longue, je voudrais juste mentionner ici les travaux d'un mathématicien qui s'appelle Nicolas Boulot, qui a démontré que la financiarisation de l'économie telle qu'elle est pratiquée depuis les années 80 a détruit tout signal prix dans l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la volatilité qui règne en maître sur des marchés financiers qui gagnent sur ces paris à cause de la volatilité. Et donc, il n'y a plus de long terme. Et en réalité, il n'y a plus d'investissement. C'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui, je parle sous le contrôle du grand économiste Claude Henri qui sera capable d'ajuster mon discours peut-être un peu simple, mais je pense qu'il n'est pas faux de dire que le problème aujourd'hui, c'est pas de dire on investit dans une économie brune et on va changer ces investissements pour investir dans une économie verte. En réalité, le problème qui se pose, c'est que l'économie actuelle n'investit pas. Le stock d'infrastructures que nous utilisons aujourd'hui, c'est le stock d'infrastructures qui a été construit après la guerre. Il ne se renouvelle pas, d'où les problèmes de bouchons, etc. Donc c'est là qu'intervient le discours sur le changement du secteur financier, parce que, à mon sens, les incitations dans l'économie réelle, c'est une chose, il faut la faire. Il faut que l'économie bas carbone devienne profitable, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi que l'essentiel de la finance arrête de s'orienter dans la financiarisation.
Claude Henry, peut-être un mot là-dessus, et puis ensuite je vais vous faire faire un petit travail de décryptage politique, parce qu'on est quand même à quelques jours maintenant des élections européennes, que le parti présidentiel a présenté un certain nombre de projets s'agissant de sa politique environnementale, et en particulier des choses qui concernent directement la finance verte. Il y a par exemple dans le programme de La République En Marche l'annonce de la création d'une banque européenne du climat pour financer précisément la transition écologique. Il y a l'engagement que 40% des dépenses européennes iront précisément à cette transition. J'aurais voulu aussi avoir votre regard, Claude Henry, sur justement ces propositions, et en particulier ces propositions qui sont censées réorienter des moyens financiers vers cette fameuse économie verte, Claude Henry.
Oui. Il y a, puisque vous parlez d'élections prochaines et de listes candidates à ces élections prochaines...
On est dans des enjeux politiques, éminemment.
Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas la peine de l'ignorer. Je dirais que y a une liste qui, évidemment, est par nature extrêmement sensible à tout cela, c'est la liste des Verts. Et dans la liste des Verts, il y a quelqu'un pour lequel j'ai la plus grande estime, c'est Marie Toussaint, parce que elle n'est pas une politicienne, et en même temps, elle a su mobiliser un mouvement énorme en faveur d'une réclamation de plus grand sérieux vis-à-vis des questions climatiques. L'autre liste que vous avez citée, auquel on peut effectivement penser, et en dehors de ces deux-là, pour moi, il n'y a rien de sérieux. C'est la liste... La République En Marche. J'ai longtemps été très dubitatif vis-à-vis de la position, et disons plus que la position, vis-à-vis de ce qu'il y a dans l'esprit, dans le cerveau du président Macron à propos du changement climatique et d'une manière plus générale à propos du capital naturel, parce qu'il y a aussi l'eau, il y a le sol, il y a la biodiversité, dont il a d'ailleurs parlé beaucoup récemment. Il me semblait que c'était beaucoup de communication et pas beaucoup de substance. Je crois que ça se renverse et que ça s'est renversé en particulier avec la confrontation, avec la catastrophe de la biodiversité auquel il a été immédiatement, il a dû faire face en répondant aux spécialistes.
Alors partons de cette idée, Claude Henry, qu'il est effectivement désormais sensibilisé à cette question-là. Cette idée précisément de banque européenne pour le climat, qui sort absolument pas de nulle part, qui a été défendue depuis des années par un certain nombre de personnes, je pense notamment à Pierre Larrouturou et Jean Jouzel dans leur fameux pacte finance-climat. C'est un projet qui est assez largement soutenu aujourd'hui en réalité. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez surtout qui va être mise en place, parce qu'il y a évidemment aussi des obstacles.
Bien sûr. Si on ne peut pas transformer en profondeur la Banque européenne d'investissement, dont ça peut être le rôle, c'est un tout petit peu le rôle à l'heure actuelle, mais beaucoup trop peu. Si on ne peut pas la transformer en profondeur, ce qui serait peut-être la meilleure solution, parce qu'il ne faut pas multiplier les institutions en la matière, à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à faire que de créer une banque européenne pour le climat et tous les autres aspects de la dégradation du capital naturel. Et selon les suggestions qui sont faites notamment par Alain Grandjean, le président de la Fondation Nicolas Hulot, et par Gaël Giraud à l'AFD, accrocher cette banque à la Banque Centrale Européenne, de telle manière à ce que cette banque n'ait pas un traitement moins avantageux que les autres banques qui financent ce qui peut être au contraire dangereux pour le climat.
Mireille Martini, sur cette Banque Européenne pour le climat, Claude Henry nous dit qu'il faut l'accrocher d'une certaine manière, l'amarrer à la Banque Européenne.
Absolument, moi je partage tout à fait cette cette idée. Je crois que effectivement, mobiliser des moyens de financement rapidement est indispensable. Et je crois qu'effectivement, dans le contexte actuel, la difficulté qu'on peut avoir avec les outils qui existent déjà, c'est la difficulté à prendre du risque. C'est-à-dire que, pour être simple et rapide, la manière dont ça fonctionne actuellement, pour différentes raisons, c'est que la prise de risque coûte trop cher. Aujourd'hui, si vous voulez transformer une exploitation agricole classique en permaculture et agroécologie, c'est 5 ans sans recette. Et là encore, compte tenu du cadre économique. Si la banque vous fait un prêt, déjà elle va pas vous prêter, et si elle vous prête à 15%, c'est pas possible. Donc il faut des outils financiers qui soient capables de prêter à long terme et qui soient capables de prendre du risque. Et là, on a besoin de quelque chose de nouveau, effectivement.
On va parler évidemment des obligations vertes, parce que c'est peut-être évidemment l'une des pistes, mais vous parliez de l'exposition au risque. Pour qu'on mesure justement bien ce que ça veut dire aujourd'hui que l'exposition au risque pour nos grandes entreprises, je voudrais qu'on évoque le cas de Pacific Gas and Electric Company, qui est une très grosse entreprise américaine du secteur énergétique avec un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de dollars. Sauf qu'en janvier dernier, l'entreprise s'est déclarée en faillite. Elle s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Pourquoi ? Ben, tout simplement à cause de centaines de plaintes de plaignants, de particuliers, d'assureurs qui lui réclament aujourd'hui 30 milliards de dollars de dédommagement au titre du fait qu'elle serait responsable des gigantesques incendies qui ont ravagé la Californie en novembre 2018, souvenez-vous.
Je suis ici aujourd'hui pour une raison, une seule raison. Aider, me battre et m'assurer que la Pacific Gas and Electric Company, qui est pleinement responsable de ces incendies, va indemniser les victimes, leur retrouver un logement et les aider à reconstruire leur vie. Je ne peux pas me prononcer sur l'avenir, mais les habitants de Paradise doivent continuer à manifester. On leur a demandé d'appeler les parlementaires, les sénateurs, les hommes et les femmes du Congrès. On leur a donné leur email, leur numéro de téléphone et tous les contacts dont ils ont besoin. Ils doivent les appeler, appeler et appeler encore. Ils doivent l'entendre des victimes et ces personnes doivent rester présentes. Je pense qu'ils vont devenir de plus en plus forts et qu'ils vont se faire entendre de plus en plus.
Voilà, cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle d'Erin Brockovich, une activiste américaine qui avait notamment été portée à l'écran, on s'en souvient, grâce à Julia Roberts dans le film de Soderbergh en 2000. Claude Henry, est-ce que aujourd'hui, parce que cette très grosse faillite, c'est peut-être pas la dernière, malheureusement, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les acteurs économiques et financiers sont justement exposés à un risque. Enfin, jusqu'où est-ce que ça peut constituer une crise pour notre économie mondiale et notre finance mondiale ? C'est ça la question que je voudrais vous poser. Oui. Puisque des grosses entreprises, supposément aussi solides que celles-ci, sont en capacité, en un claquement de doigts, de s'effondrer et de faire faillite, est-ce qu'on est dans une situation où aujourd'hui, au fond, la crise qui guette, c'est celle qui est liée à l'exposition au risque climatique ?
Climatique et naturel au sens plus général, oui. Ce qui est arrivé là, en Californie, c'est pas une première. La plus grosse entreprise charbonnière américaine, Peabody, a été mise en faillite à la suite d'une conjonction d'actes du régulateur et de juges qui estimaient qu'elle avait menti à l'opinion, menti au régulateur et menti à ses actionnaires en disant que le risque climatique n'aurait pas d'effet sur son activité et sur ses perspectives de profit. Et ça a créé en quelque sorte une avalanche qui lui a fait perdre en un an 90% de sa valeur en bourse et l'a conduite à la faillite.
Mais quand je vous entends, je me dis que c'est plutôt une bonne nouvelle de voir une entreprise qui fait dans le charbon s'effondrer de la sorte, comme si finalement l'économie mondiale allait se verdir d'elle-même.
Oui, mais voyez Bayer aussi. Avec 13 000 plaintes aux États-Unis contre le glyphosate et les premiers jugements qui ont été rendus à ce sujet, Bayer n'a plus d'avenir. Bayer va s'effondrer, c'est pas possible de durer comme ça. Bayer pouvait durer dans la stabilité allemande, Bayer ne peut pas durer dans la tourmente américaine. Maintenant, ce que nous disons là, quelqu'un l'a dit d'une position très, très importante, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, lorsqu'il était aussi le régulateur de la stabilité financière mondiale. Il a annoncé qu'en définitive, on est dans une course. Est-ce que c'est la crise financière et économique qui viendra la première ou la crise climatique? Alors pour éviter la première, il faut éviter la seconde, parce que la seconde, la perspective de la seconde va emporter la finance mondiale.
Mireille Martini, sur la fragilité intrinsèque de notre économie mondiale, mais aussi des acteurs financiers, parce qu'au fond, tout le monde est exposé là-dedans. Les banques sont exposées, les assureurs sont exposés. C'est pas du tout la même chose que d'assurer des entreprises ou des particuliers dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et puis celle qu'on aura peut-être dans 50 ou dans 100 ans, avec des augmentations de température qui vont engendrer en cascade, évidemment, un certain nombre de dérèglements divers et variés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est sur le point, à cause de ce risque climatique, de s'effondrer, tout simplement, y compris les acteurs financiers?
Oui, probablement. Mais je dirais que quand on parle de transition, il y a bien... J'aime pas beaucoup le terme effondrement, qui fait un peu peur. Mais la transition ne consiste pas à superposer une économie et une finance verte sur un existant. Il faut substituer. Donc, qui dit substituer dit que le brin disparaît. Donc, effectivement, c'est plutôt une bonne chose. Là-dessus,
Vous dites le brin, c'est tout. C'est, vous faites référence au carbone, hein, voilà. Hein, l'économie
oui,
brune, c'est celle qui est très carbonée. Pour les auditeurs, pour que ce soit parfaitement clair.
C'est-à-dire, c'est vraiment une ancienne. C'est l'économie qui a été construite depuis 200 ans, qui est basée sur les énergies fossiles. C'est tout ça, c'est tout. Il faut changer l'agriculture, il faut changer les transports, il faut changer ce que nous produisons, il faut changer ce que nous consommons. Et comme l'a dit Claude, on dit le carbone pour aller vite. Mais c'est toutes les externalités négatives. Il faut protéger les ressources naturelles, il faut protéger le sol. Enfin, c'est un programme tout à fait vaste. Donc, par rapport à l'effondrement, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. D'abord, actuellement, dans la sphère financière et dans la sphère économique, il y a des bulles. Le dégonflement d'une bulle, c'est pas forcément un effondrement. Et c'est pas forcément dramatique. Ça, c'est la première chose. Et on peut argumenter que dans l'économie pétrolière et gazière, il y a des bulles qui sont liées au fait que le prix n'est pas le juste prix économique, justement parce que les externalités ne sont pas pricées. La deuxième chose que je voudrais dire un peu à contrario, c'est qu'on risque malheureusement d'être aussi dans une situation financière où les effondrements ne se font pas à cause de la manière dont on a résolu la crise de 2008. C'est-à-dire que actuellement, on a une création monétaire très importante des banques centrales qui sert en fait à sauver de façon pérenne un système financier qui ne l'est pas. Et certains disent que il ne peut plus y avoir de crise financière. Parce que s'il y a une crise, la planche à billets sera de nouveau appelée comme elle a déjà fonctionné. Donc, c'est pas non plus certain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des effondrements dans certaines sphères, mais il y a aussi des sphères, par exemple la sphère des dettes de l'État, qui, elle, est soutenue par une politique monétaire active.
Alors, je suis pas sûr d'avoir totalement compris, mais si j'ai, en tout cas, ce que je sens dans votre propos, c'est qu'au fond, si l'on veut enclencher la transition climatique, il va falloir changer de politique monétaire. En tout cas, celle que nous avons aujourd'hui est incompatible avec cette transition. Est-ce qu'on peut dire ça?
Disons que, pas forcément en changer, mais l'orienter vers la transition.
Claude Henry, je disais tout à l'heure que finalement c'était plutôt une bonne nouvelle de voir ces entreprises extrêmement gourmandes en carbone s'effondrer, et je disais que finalement peut-être que l'économie mondiale et la finance mondiale allaient d'elle-même se verdir. Mais est-ce que c'est aussi vrai que cela, Claude Henry? Est-ce que précisément le marché, je mets des guillemets et une grande majuscule, Claude Henry, a justement cette capacité d'adaptation et peut enclencher, je vais dire, seul sa transition?
Seul, certainement pas, mais il a une grande capacité d'adaptation. Et il l'a montré au cours de l'histoire, déserter les navires qui sont en train de couler. Encore faut-il que les navires, manifestement, soient en train de couler.
Alors attendez, j'ai posé la question autrement. Jusqu'où est-ce qu'il faut remettre en question le libéralisme tel qu'il existe aujourd'hui pour repérer le basculement de la finance vers une économie bas carbone?
Il y a un long chemin à faire. Et une fois de plus, je vais citer le gouverneur Carnet. qui est une espèce de d'extraterrestre dans le monde de la finance. Il estime que l'action des États doit être suffisamment stricte pour bien définir les risques que les entreprises ne peuvent pas courir et, si elles les courent, les sanctionner. Et il place toujours le changement climatique en tête de ces risques. Donc pour lui, les sanctions publiques doivent être fortes et persévérantes. De notre côté, n'oublions pas aussi la masse des acteurs de la société civile, notamment ceux que vous considérerez demain, qui exercent une pression de plus en plus forte.
Bien sûr.
Pour Shell, par exemple, ce n'est pas complètement négligeable que son siège à Londres soit assiégé par Extinction Rebellion. C'est pas du tout négligeable. Et ça change une image à laquelle, dont ils ont besoin, précisément parce qu'ils vont être secoués.
On en parlera assez largement demain, justement, Claude Henri. Mireille Martini, je voudrais vous faire un petit peu de travail de pédagogie, si vous le permettez, parce que parmi les outils, justement, qui sont censés, justement, nous aider à faire cette transition vers une économie bas carbone, il y a ce qu'on appelle les green bonds, des obligations vertes en français. C'est d'ailleurs un des sujets qui avait été très évoqué par Emmanuel Macron, justement, on en parlait tout à l'heure, le 12 décembre dernier, lors du sommet mondial One Planet Summit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces green bonds, ces obligations vertes, comment ça fonctionne? Déjà, dans un premier temps, on verra ce qu'on peut en attendre ensuite, et peut-être en faire un bilan, parce que ça fait déjà une douzaine d'années qu'on les utilise.
Donc, les obligations vertes, c'est un produit qui a été lancé par la Banque européenne d'investissement en 2007, et qui s'est beaucoup développé depuis à toute une catégorie d'émetteurs, les États et les entreprises. Donc, vous empruntez de l'argent sous forme obligataire au marché financier, et c'est vert parce que vous indiquez, lors de l'émission, votre intention d'utiliser cet argent pour des projets de la transition énergétique. Qui peuvent être de l'ordre, par exemple, l'État néerlandais vient d'émettre, je crois hier ou aujourd'hui, une obligation verte pour développer un réseau ferroviaire bas carbone, et puis pour des projets liés aux grands travaux de protection contre le changement du niveau des eaux.
C'est d'ailleurs la première obligation verte notée triple A.
Voilà, exactement. Donc triple A, voilà.
Claude-Henri, vous saviez pas. Non. Les échos d'aujourd'hui.
Voilà. Donc triple A, ça veut dire que les marchés financiers considèrent que la signature de l'État néerlandais est très bonne. Et effectivement, ces obligations vertes, en ce qui concerne les émetteurs souverains, c'est de l'argent que les marchés financiers prêtent pour des projets écologiques. Par exemple, l'obligation verte de l'État français, qui est une obligation à tranche, il y a une partie importante, je crois, de l'ordre de 500 millions d'euros, qui est pour les projets de biodiversité. Bon. Donc ça donne des moyens pour financer la transition écologique, et c'est très important.
Si l'on fait un peu le bilan des choses, vous disiez, ça fait une douzaine d'années qu'on a lancé les premiers green bonds, les premières obligations vertes. Alors les États, évidemment, continuent d'alimenter, c'est le cas par exemple des Pays-Bas, vous le disiez, le marché des obligations vertes, mais visiblement sur 2018, ça s'est un petit peu ralenti, et les observateurs qui connaissent bien le sujet nous disent même que ça pourrait même reculer sur l'année 2019. Alors, c'est ce que j'ai lu hier, peut-être que je peux me tromper, mais, ouais. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne se développe pas autant qu'on le voudrait, Claude Henri, peut-être?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Mireille Martini, qui est compétente sur ce point.
L'impression que j'ai, c'est que le marché des green bonds est en train de repartir. Alors, je peux pas faire de prévision, mais moi, je pense que l'année 2019 va montrer de nouveau une augmentation par rapport à 2018. Je pense également que la décrue qui a été observée sur le marché des green bonds était liée en fait au marché obligataire global. C'est-à-dire que par ailleurs, on est dans un contexte où il y a en fait un surendettement général à la fois des États et du marché privé. Et donc on est sur un marché qui est très tendu et qui connaît des moments de ralentissement. Ce que je voudrais dire au final sur les green bonds, c'est que le marché des green bonds représente 2% du montant des obligations globales. Et c'est ça qu'il faudrait changer.
C'est-à-dire
que
plus.
Dans la transition énergétique, toutes les obligations sont vertes. tout ce qui est emprunté sur le marché financier est destiné à financer la transition.
Et pourquoi c'est aussi lent? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas finalement... Pourquoi est-ce que toutes les obligations d'État ne sont pas des obligations vertes aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque?
J'ai envie de dire d'une manière un peu caricaturale, parce qu'on est encore trop dans un système où il y a beaucoup de choses qui se font pour la transition, mais elles se font d'une manière additionnelle. On finance de l'éolien et du solaire, mais sans décarboner la grille, sans diminuer le fossile. On ne peut pas décarboner l'économie en ajoutant du bas carbone à un stock existant. Et pour la finance, c'est la même chose. On fait du vert en plus. Mais ce qu'il faut, c'est changer le business as usual, changer le reste.
Claude Henri.
Tout à fait d'accord.
Tout à fait d'accord. Claude Henri, Mireille Martini sont nos invités ce matin dans notre série consacrée au sauvetage de la planète. Aujourd'hui, on se demande si les financiers peuvent sauver la planète. On va s'intéresser dans un très court instant à la Chine.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il y a 3 ans de cela, la Chine a commencé à penser à mettre en place ce que l'on appelle un système financier vert, ce qui signifie qu'on ne se concentre pas seulement sur un outil spécifique, mais qu'on en a besoin de construire un système qui utilise tous les instruments financiers pour verdir l'économie. Par exemple, les prêts verts, les obligations vertes, les assurances vertes, les ETF verts, etc. Donc, en 2014, nous avons lancé une task force appelée Green Task Force de la POBC, qui a soumis 14 recommandations au gouvernement central. La seconde année, le gouvernement central a approuvé la plupart de ces recommandations qui ont été mises dans un document déclarant que la Chine a besoin de développer un système financier vert.
Voilà, Ma Jun, conseiller spécial de la Banque Populaire de Chine. On va s'intéresser à la finance verte chinoise. La Chine qui d'ailleurs émet aussi, on en parlait à l'instant avec Mireille Martini, des green bonds, ces obligations vertes censées réorienter les investissements dans les secteurs moins polluants. Ça fait maintenant 4 que Pékin émet ce type d'obligations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le premier marché de la finance verte. Bonjour, Joël Ruet.
Bonjour, Florian Delorme.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste au CNRS et puis président du think tank The Bridge Tank. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'est aujourd'hui la finance verte chinoise. Et pour ce faire, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière, en mars 2016, parce que la Chine avait adopté à ce moment-là un grand plan quinquennal, comme elle le fait souvent à l'occasion de la réunion annuelle du Parlement. C'était le 13e du nom. Il était donc censé organiser, planifier le développement économique et financier du pays sur la période 2016-2020. Regardons ce qu'il y a dans ce plan quinquennal en matière de finance verte. Les objectifs affichés, les outils, qu'est-ce qu'on a dedans, Joël Ruet?
Alors, je crois que ce qui est important de mentionner, c'est que comme sur beaucoup de sujets, la Chine avance sur 2 pieds. Un pied à court terme et très pragmatique, qui sont des investissements réels, puisque la Chine aujourd'hui occupe déjà près de 45% de tous les investissements mondiaux effectifs dans les énergies renouvelables, 45% des 400 milliards et plus d'investissements annuels dans les énergies renouvelables ont lieu en Chine, donc ça c'est le premier pied. Et puis le deuxième pied ou le deuxième pilier, c'est en effet la prospective à long terme, et une prospective liée là aussi à l'action. Et c'est ce que disait Ma Jun, qui a rendu ministre d'ailleurs dans le sujet. Donc il est non seulement conseiller auprès de la Banque de Chine, mais il a rendu ministre pour que les propositions aient force de loi ensuite. Et là, en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du concret, au-delà de ce que le monde entier sait faire aujourd'hui, à savoir des investissements, eh bien, la Chine se projette dans ce que le monde entier ne sait pas encore faire, c'est-à-dire une vision holistique, une vision générale intégrée de différents types d'outils financiers. On ne se contente pas de verdir un ou deux outils, mais on a une réflexion intégrée sur l'ensemble des outils et essayer d'avoir une définition un peu nouvelle et renouvelée de la finance.
On est en train d'essayer de changer le système vraiment en profondeur. Sur les green bonds, les obligations vertes, justement, que Pékin émet depuis 2015, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes de poids financier et quel bilan est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que c'est efficace pour réorienter les investissements et pour verdir, justement, l'économie chinoise, puisque maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on les utilise, 4 ans, on peut en faire un premier bilan?
Alors, je crois qu'il y a un bilan géographique à faire, mais interne à la Chine, et puis je crois qu'il y a un bilan, un peu énergie par énergie. Très rapidement, la Chine est un très grand territoire. Il y a des économies locales qui sont très contrastées entre les économies liées à l'export en zone côtière, et puis un certain nombre de provinces qui avaient des difficultés dans leur transformation économique et énergétique. Donc, je crois que d'abord, l'outil des Green Bonds, qui se décline aussi au niveau des municipalités, au niveau des provinces, et avec plusieurs pôles boursiers de développement de ces Green Bonds, est un outil qui est suffisamment fin pour servir des provinces qui étaient bloquées dans leur transition énergétique. Donc, ça, c'est très important. Le deuxième point au niveau, des secteurs, il faut bien comprendre que la Chine a une trajectoire, a une inertie, il y avait beaucoup de charbon. Donc, d'une part, pour tout ce qui est lié aux énergies renouvelables qui sont maîtrisées aujourd'hui, comme l'éolien et le solaire, c'est une manière d'accélérer le déploiement de ces énergies, où on ne dépend plus uniquement des prêts d'État ou des investissements en equity, mais on peut avoir recours à ces green bonds. Et puis par ailleurs, pour tout ce que sont les énergies fossiles, il faut bien voir qu'il y a aujourd'hui une modernisation très avancée du secteur du charbon. Il y a une restructuration des entreprises minières, donc qui doit être financée par la puissance publique, mais il y a aussi une modernisation. Donc, on ferme des mines, et ça doit être financé par l'État, mais on modernise aussi des mines, on modernise des flux, on met en place de nouveaux processus plus propres de développement du charbon, de capture aussi des émissions de CO2, et ça, c'est quelque chose qui aurait été difficile de financer uniquement par la puissance publique, donc le recours au marché a permis de faire les deux choses.
Mais attendez, ça veut dire, pardon, que je comprenne bien les choses, Joël Ruyer, pardonnez-moi de vous couper, que je comprenne bien les choses, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les green bonds aujourd'hui, dont on dit que voilà, c'est l'outil formidable pour réorienter l'économie, pour faire émerger cette économie verte, elle sert aussi en Chine à mettre en place des centrales à charbon, parce que, enfin, intuitivement, on voit quand même pas ça comme une prouesse.
Vous avez raison de me faire préciser, c'est pas du tout, mais de faire que des centrales existantes se modernisent et moins d'émissions d'abord de soufre, etc. Ensuite, une meilleure rentabilité énergétique. Ensuite, que à ces centrales à charbon existantes déjà, on associe de la capture de carbone. Donc, en fait, si vous voulez, qu'elles servent à ce qu'on ne se résigne pas que sur une partie du spectre énergétique chinois qui est polluant, qui a recours aux énergies fossiles, à ce qu'on ne se résigne pas en se disant bon, c'est une transition nécessaire, c'est pas mal nécessaire, mais à ce que on puisse verdir d'une certaine manière cette partie-là aussi. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, on disait tout ce qui est énergie verte est finance verte, mais une partie de la finance verte peut aussi servir à accélérer la sortie des énergies fossiles, et ça, c'est extrêmement important, et ça, c'est la Chine est très consciente de ça.
Vous restez avec nous, Joël Ruyer, je voudrais faire réagir nos invités, puis ensuite j'aurai d'autres questions à vous poser. Mireille Martini, est-ce que la Chine est en train d'inventer, là, un nouveau modèle de développement décarboné?
Alors, j'espère que oui, parce que je pense que...
C'est un peu l'impression qu'on a quand on entend Joël Ruyer.
Oui. Mais c'est fondamental. En réalité, la transition mondiale dépend énormément de cette question. Elle ne dépend peut-être que de cette question.
La manière dont les émergents s'y prennent, c'est ça que vous voulez dire ?
Mais la manière dont la Chine s'y prend. La Chine est aujourd'hui le plus gros émetteur, et parce que l'économie chinoise est en train de devenir l'une des plus... Et parce que la Chine, en réalité, est l'atelier manufacturé de manufacture du monde. Donc, je crois que c'est extrêmement utile. La politique verte, et notamment la politique verte de finance verte de la Chine, est extrêmement utile parce que elle a un effet d'incitation. Par exemple, la Commission européenne est en train de développer une taxonomie de la finance verte qui n'est pas sans rapport avec la nomenclature des activités de finance verte en Chine. Donc, ça, c'est très important. Mais je voudrais dire, ce que je voudrais dire, c'est que, deux choses, quand même. Bon, la première chose, c'est que, il faut pas oublier que la Chine est une économie complètement dirigée. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut voir, nous n'avons pas les mêmes outils. Parce que quand nous mettons en place une définition, elle n'a pas la même portée dans un système néolibéral que dans un système dirigé. Donc il faut bien faire attention quand on... C'est pas tout à fait comparable. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que quoi qu'il arrive en Chine, si on est dans une économie où on continue à avoir du transport en cargo, en avion, d'éléments qui sont fabriqués en Chine chez nous, il y a aussi cette question-là. Qu'est-ce qui est fabriqué en Chine ?
Claude Henry, Mireille Martini parlait à l'instant d'économie dirigée. Est-ce qu'il faut plus, chez nous en Occident et peut-être nous en particulier en Europe, de dirigisme précisément ? Est-ce qu'il faut d'une certaine manière s'inspirer un peu du modèle chinois qui est en train d'inventer là quelque chose ?
Alors, peut-être, comme vous le disiez, on peut s'inspirer du modèle chinois, par exemple, comme semble le faire la Commission européenne, dans la définition d'outils pour organiser un marché comme le marché de la finance verte. Je ne vois pas comment on pourrait s'inspirer du modèle chinois en général.
Non, oui, c'était bien sûr sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Oui.
Et je ne vois pas comment on pourrait s'inspirer du dirigisme chinois et de l'interventionnisme de l'État dans tous les secteurs et dans les vies privées pour organiser un meilleur contrôle et une meilleure dynamique publique vis-à-vis de la transition. Ça, nous devons l'inventer nous-mêmes. Par ailleurs, tout en appréciant beaucoup, et comme Joël le décrivait très bien, la route de transition de la Chine, il y a une autre route où l'ambiguïté, qui est aussi une caractéristique de l'histoire de la Chine, est manifeste, c'est la route de la soie, la nouvelle route de la soie. Comment peut-on justifier en même temps les efforts que l'on fait pour contenir, disons, le charbon en Chine, et d'autre part, utiliser des entreprises d'État chinoises pour développer le charbon au Vietnam, en Indonésie, en Afrique? Il n'y a pas à l'heure actuelle d'opérateurs au monde qui soient plus actifs dans les investissements charbonniers hors de leur pays que les Chinois.
C'est pour donner une idée, c'était 37 milliards de dollars pour l'année 2018 pour installer effectivement des entreprises, des centrales charbon à l'extérieur du territoire chinois, pour donner une idée aux auditeurs.
Alors c'est comme quand on était une puissance coloniale où on mettait en avant notre sens de la liberté, mais on oppressait les colonisés.
Joël Rouet, peut-être que vous voulez réagir au propos qu'il y a eu ici en plateau, mais moi j'en profite pour glisser une autre question, parce que là aussi, comme c'est souvent le cas en Chine, on va très vite et très fort, et sur le cas des green bonds par exemple qu'on évoquait, là aussi ils ont augmenté de façon très très rapide. Pour donner une idée, en un an, on est passé de 0 à 36 milliards de dollars. Est-ce qu'on n'a pas un risque avec ces green bonds de menacer la stabilité de l'économie et de la finance chinoise?
Alors, je vais répondre à votre question et tout en réagissant à ce qui a été dit. Je pense qu'on va faire les deux en même temps. Alors, moi, je vais dans le sens de ce qu'a dit Claude Henry. Je pense que il n'y a pas une transition énergétique, il y a des transitions énergétiques. D'abord, parce qu'il y a un génie national qui diffère d'un pays à l'autre. Et puis surtout parce que les points de départ sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer d'un certain nombre de choses. Je pense que la finance verte et les green bonds chinois, il y a une technicité qui se met en place. Mais enfin, la France est le deuxième marché mondial. La France a été innovatrice pour avoir le premier green bond souverain, c'est-à-dire garanti par l'État. Donc, je pense qu'il y a déjà un bon dialogue, un bon niveau de dialogue, y compris au niveau technique, entre nos deux pays. Mais je rajouterais une chose, qui est que aujourd'hui, l'outil est adapté, et je réponds en ce sens à votre question, l'outil est adapté à l'économie chinoise parce que, comme je le disais, on peut aller au niveau des provinces. Les provinces chinoises aujourd'hui sont très fortement dépendantes du charbon, certaines provinces chinoises, et ont un certain nombre de dettes, y compris de dettes cachées au niveau du charbon. Il y a eu la semaine dernière à Pékin une annonce pour mettre un grand plan de mise à jour des dettes cachées, de titrisation des dettes cachées. Et moi, je pense que les deux grandes évolutions, à savoir de finance verte d'une part et de titrisation des dettes cachées, vont aller de pair. C'est-à-dire qu'un certain nombre de dettes cachées qui vont apparaître vont être mises sur le marché. Certaines vont être dévaluées, vont avoir un déflateur. Et le déflateur sera moindre lorsqu'on pourra associer des dettes à un développement propre. Donc ça va donner une incitation à ce que les provinces chinoises, les gouvernements chinois et les locaux et les municipalités chinoises, puisse décarboner plus rapidement. Voilà, je pense qu'y compris, et c'est ça qui est important, y compris dans les zones où c'est le moins facile. Rapidement, sur les nouvelles routes de la soie, il y a trois semaines à Pékin, le deuxième grand forum des routes de la soie, il y a eu une annonce extrêmement claire du président Xi Jinping en disant que les entreprises chinoises doivent aujourd'hui aller dans le sens d'investissement durable. Je crois que ça se met en place en parallèle d'un super ministère de l'environnement qui a été, lui, annoncé en mars 2018 et qui commence à trouver ses marques. La critique a été entendue par la Chine. Alors, c'est sûr qu'il y a une capacité charbonnière qui... il y aura certainement un peu de transition et encore des pays dans lesquels il va y avoir des ajouts de charbon. Voilà, mais je pense que les routes de la soie, pour qu'elles soient durables économiquement, sont appelées à se verdir et il me semble que la Chine en a conscience.
Toute dernière réaction avec nos deux invités ici en plateau, Mireille Martini et Claude Henry. On arrive presque au terme de cette émission. Mireille Martini, j'ai vu que vous avez écrit des choses sur votre papier devant vous et Claude Henry aussi, donc j'imagine que ça a suscité des réflexions chez l'une et chez l'autre.
Non, simplement merci beaucoup. Merci encore à France Culture de consacrer du temps d'antenne à ces sujets qui sont pas forcément très connus, qui sont extrêmement importants. La finance a une importance cruciale dans nos économies. Il est important de la faire connaître et il est important de faire connaître la manière dont elle peut s'orienter plus, mieux, plus rapidement vers la transition énergétique.
Et merci évidemment à vous de nous éclairer sur ces sujets, Claude Henry.
L'historien Marc Bloch disait volontiers que pour bien regarder vers l'avenir, il faut savoir bien regarder vers le passé. Alors un tout petit regard sur le passé, sur un personnage du XVIe siècle qui était le chef des armées et de l'État hollandais, qui s'appelait Guillaume le Taciturne, prince d'Orange. La Hollande était attaquée par des troupes bien supérieures à ses troupes propres espagnoles, et la déroute et la défaite menaçaient. Et il a eu cette parole qu'on peut reprendre dans divers contextes, et notamment dans le contexte auquel nous faisons face de menaces globales. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Merci à tous nos invités. Joël Rouillet qui était à l'instant par téléphone avec nous, qui est économiste au CNRS. Claude Henry, un grand merci d'avoir été avec nous également ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de développement durable à Sciences Po Paris et également président du conseil scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI comme on dit. Mireille Martini, merci également d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai que vous êtes co-auteur avec Alain Grandjean, justement, on en parlait, de financer la transition énergétique. C'était aux éditions de l'Atelier. L'ouvrage de Claude Henry, je ne l'ai pas sous les yeux, est en anglais. Mireille Martini, rappelez-moi le titre, Earth at Risk, voilà, qui avait été coécrit avec Laurence Toubiana. On mettra évidemment sur la page de Culture Monde toutes les références des ouvrages qu'on a cités aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir éclairé sur cette délicate question et cette nécessité, bien sûr, de réorienter notre économie vers une économie bas carbone, comme on dit. Il est 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Le Régiment Immortel, le nouveau livre de Galia Ackermann, dont vous nous avez un peu parlé hier déjà, montre comment Vladimir Poutine instrumentalise la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale pour fortifier son propre pouvoir.
Oui, elle livre non seulement les grandes lignes du projet politique de Poutine, qui est la militarisation du régime, mais aussi les raisons qui l'ont rendu terriblement efficace en Russie. Pour en comprendre la portée, il faut revenir sur certains traits particuliers de l'histoire de la Russie et de l'URSS. Et Galia Ackermann, traductrice et éditrice fameuse, fait profiter ses lecteurs de son impressionnante familiarité avec la culture russe, en particulier de sa littérature. Ainsi, le mythe de la Troisième Rome, lancé aussitôt après la chute de Constantinople prise par les Ottomans en 1453. Deux Roms sont tombées, mais la troisième demeure et il n'y en aura pas de quatrième, a prophétisé le moine Philothée. La troisième Rome, l'ultime empire chrétien orthodoxe, c'était bien sûr la Russie. L'histoire légendaire confère ainsi à son peuple une mission sacrée et son chef portera dorénavant le titre de tsar, en référence au César romain dont il est censé être le continuateur. La légitimité de son pouvoir est double, à la fois politique et religieuse. Mais cette nature du pouvoir qui dirige la Russie césaro-papiste implique une soumission absolue envers l'autocrate. Le tsar du moment peut exiger de ses sujets des sacrifices ahurissants. Staline s'est ainsi coulé dans un moule créé par les Ivan le Terrible et autres Pierre le Grand. Despote impitoyable, mais conquérant avisé. Autocrate, mais modernisateur enragé. Combien de citoyens soviétiques, civils et militaires, ont péri durant la période où l'URSS fut attaquée par l'Allemagne hitlérienne, soit entre le 22 juin 1941 et le 9 mai 1945? Nul n'a jamais pu l'établir. 7 millions, disait-on sous Staline, l'on minimisait exagérément le coût humain d'une guerre au cours de laquelle les états-majors, sur ordre de la direction communiste, avaient délibérément sacrifié des centaines de milliers de soldats. Nikita Khrouchtchev, le liquidateur du stalinisme, avança lui le chiffre de 20 millions de pertes. Pendant la perestroïka gorbatchevienne, une commission d'historiens et de militaires qui avait eu accès aux archives de l'état-major de l'armée rouge estima l'hécatombe à plus de 26 millions de citoyens soviétiques, dont 8 700 000 militaires. Une très grande part de la propagande de Poutine, nous explique Galia Ackerman, est basée sur l'immensité du sacrifice acquitté par le peuple russe dans la lutte contre le fascisme. Il est censé lui conférer des droits particuliers. Ainsi, le ministre de la Culture de Poutine, Vladimir Medinsky, justifie l'occupation de l'Europe centrale après-guerre par la supériorité des pertes de l'URSS sur celles des Alliés. Quel droit moral les autres pays, à l'exception du nôtre, avaient-ils pour régler le sort de l'Europe de l'après-guerre ? Dit-il. Ce même Medinsky s'est récemment illustré en inaugurant à Moscou une immense statue 7 mètres de haut à la gloire de Mikhaïl Kalachnikov, oui, l'inventeur du fameux fusil automatique AK. Kalachnikov incarne les meilleurs traits de l'homme russe, a déclaré le ministre avant d'ajouter « l'AK est, on peut le dire, un véritable symbole culturel russe ».
Et puis Brice, par ailleurs, la grande guerre patriotique qui sert de fondement à cette militarisation de la société est réécrite d'une manière assez stupéfiante.
Eh oui, par exemple, le pacte germano-soviétique d'août 39 et le dépeçage en commun par Staline et Hitler de la Pologne et des Baltes, l'attaque de la Finlande, sont entièrement passés sous silence quand on n'en nie pas carrément la réalité. Pas un mot non plus sur la trahison par l'URSS de centaines de militants antifascistes allemands, dont de nombreux juifs, livrés à Hitler. On passe sous silence les redditions en masse de soldats soviétiques, plus de 5 millions de prisonniers de guerre, nullement décidés à se faire tuer pour un régime qu'ils haïssaient. Il n'est pas question non plus des troupes du NKVD qui, selon le témoignage de Vassili Grossman, avaient pour mission de tirer sur les soldats qui reculaient. C'était la conséquence de l'ordre numéro 227, le fameux ordre 227 du 28 juillet 42, signé par Staline, interdisant toute retraite sur le front. Encore moins ne parle-t-on du million de soviétiques qui choisirent de combattre par haine de Staline aux côtés des Allemands. 400 000 soldats russes prirent ainsi les armes contre leur propre patrie soviétique. Non, ce qu'on apprend aux jeunes Russes, c'est une histoire sainte. Le peuple russe, guidé par le grand Staline, a écrasé seul le mal absolu et tous ceux qui aujourd'hui s'opposent aux ambitions du grand Poutine sont donc des fascistes. En particulier l'Ukraine indépendante et pro-européenne. Alors tandis qu'en Europe on déconstruit le roman national, on cherche à provincialiser l'Europe et que l'histoire s'écrit sous le signe de la culpabilité et de la repentance, en Russie, à l'inverse, toute la gamme de la mythologie nationaliste est mobilisée par le régime pour célébrer la grandeur du peuple, son destin exceptionnel, ses droits particuliers. Lisez donc le livre de Galia Ackerman, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. Il vient de paraître aux éditions Premier Parallèle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour ce conseil de lecture. Une chronique évidemment à retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.